Eh bien, bonjour les amis, bonjour à vous d'être présents ici aujourd'hui encore pour une nouvelle édition du Seitai Live. En ligne, nous avons Monique. Bonjour Monique, toujours un plaisir de te voir. Yolande et Denis qui ont réussi à se trouver une connexion Internet alors qu'ils sont en vacances, merveilleux. Chantal, toujours fidèle au poste, et aujourd'hui, on a une nouvelle venue, une fille que j'adore vraiment un très haut point, puisque c'est Manuela Nesmond, c'est ma petite sœur. Elle est en ligne et je suis bien content de te voir présente ici avec nous. Et je salue tous les amis abonnés qui nous suivent bien en différé le soir, notamment pour les personnes qui sont en France ou ceux qui travaillent dans la journée qui ne peuvent pas participer au direct. Toujours très content de vous voir. Donc merci d'être présent. Et dans cette édition du Saitala, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier. D'abord, j'ai une question à vous poser. Je deviens vraiment de plus en plus débordé par tous les appels que je reçois sur Skype, c'est de la vraie folie. En plus, il y a des malchanceuses que moi je n'éteins pratiquement jamais mon ordinateur et je laisse toujours mon service Skype en ligne. Et il y a des personnes qui m'appellent même quand je dors. Alors, c'est de la folie. Et ça devient très désordonné. Donc, ce que j'ai mis en place sur le site, donc sur le Dojo Shop, sur l'espace Taiken, j'ai mis en place un service à partir duquel je vais vous demander, à partir de maintenant, de réserver les heures auxquelles vous voulez m'appeler pour que je puisse rester organisé dans mon travail. Et donc, les 2 jours par semaine, je vais dédier 2 heures, 2 heures et demie. Pour pouvoir parler avec vous sur Skype. Vous devez absolument installer Skype sur votre ordinateur. Je n'appelle pas par téléphone. Si vous voulez absolument que la connexion se fasse par téléphone, comprenez bien qu'on ne pourra pas se voir et c'est vous qui allez devoir m'appeler. Il y a un numéro de téléphone auquel vous allez pouvoir me joindre. Mais faites-le aux heures que j'ai indiquées sur le site à l'heure. Vous allez voir, il y a un petit nom de page en haut où ça s'appelle Agenda Rendez-vous Skype. Et en cliquant là, vous allez pouvoir gratuitement réserver l'heure à laquelle vous voulez me contacter et pas à un autre moment, s'il vous plaît. J'adore parler avec vous, j'adore être en relation avec vous, mais si vous m'appelez pendant que je suis en plein travail, eh bien, je ne pourrai pas répondre. Voilà. Donc, c'est une façon de s'organiser et d'avoir la certitude qu'on va pouvoir se parler. La deuxième chose que j'envisage, parce que je suis vraiment débordé, j'exagère pas quand je dis ça, ça m'est venu, l'idée m'est venue ce matin. Je vous fais juste une suggestion et puis vous me direz ce que vous en pensez. L'idée a été faire du Seitai Live une émission bimensuelle et non pas hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on se verrait sur le Seitai Live 2 fois par mois. Et en remplacement des rencontres qu'on a en direct sur le Seitai Live, je peux mettre une vidéo, une information toujours intéressante à partager, mais que je vais faire à une heure à laquelle je suis disponible. Le Seitai Live lui-même me prend beaucoup de temps dans la journée, il se fait. Je ne me plains pas, je suis très heureux d'être avec vous, mais pour des questions d'organisation, j'ai besoin de pouvoir trouver le temps de construire les informations dont vous avez besoin, qui vont vous aider et qui vont entretenir la relation avec vous. Donc, je suis toujours ouvert à avoir le site live chaque semaine, mais je devrais enlever un autre pan de la communication qu'on a ensemble pour pouvoir continuer. Ou alors on s'accorde, ok, pour se voir 2 fois par mois, toujours dans le même temps, et dans le temps où on ne se verra pas, je mettrai quand même une émission, ce qui ressemblerait de toute façon à un Saitai Live en différé. Ça ne voudrait pas faire beaucoup trop de changements pour vous, mais j'aimerais savoir, et dites-le s'il vous plaît, pas par email, m'envoyez plus l'email pour me dire c'est génial, mettez ce genre d'email, mettez vos suggestions dans les commentaires du blog. Je vois tous les commentaires, même si je ne réponds pas tout de suite instantanément, je vois tous les commentaires, donc mettez-les dans les commentaires du blog, et puis ça rendra le blog aussi plus populaire, donc plus de chances à d'autres personnes qui cherchent de l'information de pouvoir découvrir ce site merveilleux, extraordinaire, rempli d'archives très intéressantes pour votre santé. Vous voyez, je suis en super forme aujourd'hui, et j'ai très envie de déconner. Donc voilà, mes 2 messages sont transmis à propos du Seitai Live et à propos de la façon dont vous pouvez prendre rendez-vous. Donc vous inscrivez sur le site Taiken, il y a un espace gratuit, vous entrez votre nom, votre email. Moi je suis informé que vous êtes inscrit et une fois que vous êtes inscrit, vous accédez à la page des rendez-vous et uniquement les personnes qui sont inscrites dans le Taiken gratuit vont pouvoir prendre un rendez-vous avec moi parce que j'ai besoin que les choses s'organisent. Merci beaucoup de votre compréhension. Alors, quel thème on va aborder aujourd'hui? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous avez vu, il y a un jour ou deux, j'ai mis une petite vidéo, une petite bande-annonce. Je me suis amusé, je m'amuse en vérité aussi beaucoup à communiquer avec vous, on trouve les moyens de communiquer avec vous. Et donc j'ai mis une vidéo informative pour inviter les personnes qui souffrent du canal carpien à aborder une solution avec le CETA pour pouvoir se tirer d'affaires eux-mêmes. De mon expérience, c'est tout à fait possible de se sortir du problème du canal carpien par soi-même, tout seul, sans forcément passer par le fait de faire des infiltrations ou même une opération chirurgicale. De nos jours, l'opération est tellement bénigne qu'il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Vous entrez le matin, vous vous faites opérer et puis vous ressortez le soir. Et la plupart des personnes qui ressortent de cette évolution de la médecine maintenant sont apparemment satisfaits, et tant mieux. Et donc l'information que je partage avec vous concerne les personnes qui souffrent depuis hier ou depuis des années et qui cherchent des solutions qui ne passent pas forcément obligatoirement par le fait de se faire opérer. Nous sommes nés avec un corps qui a été conçu par la nature et il y a des personnes qui s'intéressent à préserver ce corps au mieux pendant tout le long de leur vie et la solution concerne davantage ces personnes-là. Si vous êtes OK avec la médecine et l'opération, c'est pas de problème, allez-y. Mais il y a une certitude, c'est que beaucoup de personnes qui se font opérer d'un côté se retrouvent avec la nécessité de se faire opérer de l'autre côté. Et certaines personnes qui ont reçu l'opération en tirent quand même des séquelles. On dit que c'est de l'ordre de 3%, c'est peu, mais ça fait quand même un certain nombre de personnes qui ne sont pas satisfaites de la solution qui a été apportée de façon conventionnelle. Et donc j'ai envie d'aider ces personnes-là pour le syndrome du canal carpien. Et avec un Taiso, il y a plusieurs batteries de Taiso qu'on pourrait mettre en place pour sortir du problème. Avec un Taiso que j'ai appris grâce à Imoto Sensei, c'est tout à fait possible de sortir de la situation. Simplement, il faut le vouloir, il faut en avoir profondément envie, il faut être absolument déterminé à faire en sorte de réussir avec la méthode proposée, parce que c'est sûr que le Taiso, ce n'est pas un mantra qu'on récite assis tranquille dans son fauteuil, c'est une action qu'on met en place pour se tirer d'affaire soi-même. Donc on doit appliquer notre corps en mouvement. Donc si vous êtes du genre à attendre que la santé vous soit apportée par un tiers ou qu'elle arrive comme ça par chance, en attendant qu'elle arrive, vous risquez d'attendre longtemps et la solution que je propose ne vous intéressera pas. Donc si vous êtes courageux, déterminé à transformer quelque chose, je vais vous dire quelques petites choses intéressantes à propos du canal carpien. La plupart du temps, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quelle est la cause. On connaît les paramètres qui font apparaître le canal carpien, on connaît dans quelles circonstances le canal carpien se manifeste, notamment que c'est un problème, une douleur qui se pose dans le creux de la main ici, dans le talon de la main ici, quand on a des actions physiques qui sont répétées, des mouvements physiques qui sont répétés de façon continuelle, qui font activer un certain groupe musculaire, musculo-squelettique on dit, et qui vont renforcer ces systèmes mécaniques à tel point qu'ils n'arrivent plus à se détendre et le poignet devient dur, la paume de la main devient dure, et le creux de la main devient douloureux à tel point qu'on n'arrive plus à utiliser confortablement le mouvement du pouce et les doigts de la main. On arrive difficilement à mettre les pouces en opposition avec les autres doigts. L'index, le majeur peuvent également être douloureux. L'éminence sténar peut être extrêmement dure, rigide et ne plus savoir complètement se détendre. Il y a des personnes qui sont atteintes du syndrome du canal carpien qui n'arrivent plus à ouvrir la main. Et l'idée à l'heure actuelle, c'est de regarder, de chercher la solution à l'endroit où s'exprime le problème. Einstein disait qu'on ne peut pas solutionner un problème au niveau où il a été conçu. Eh bien, en cet état également, on observe que il est très difficile de résoudre un problème au niveau où il est perçu. Il faut monter à un autre échelon dans la hiérarchie, dans la structure du corps pour arriver à trouver la source du problème. On a observé en cet état que le problème du canal carpien ne vient pas de la main, mais il vient d'une structure qui gouverne, qui dirige, qui a un aval sur la mobilité et le fonctionnement du bras jusque dans la main. Et le système, eh bien, on va le trouver au niveau du thorax, au niveau du dos. Et toutes les personnes qui ont problème du canal carpien, qu'ils soient fins, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, qu'ils soient obèses, qu'ils soient sportifs ou pas du tout, on a observé qu'il y a des personnes qui souffrent du syndrome du canal carpien et qui n'ont pas d'activité physique intense. Ce sont des personnes qui travaillent devant un bureau, qui utilisent juste un ordinateur et la souris. Et on s'est rendu compte que le fait de la posture, déjà la posture, et puis le fait d'être constamment pitonné sur le clavier de l'ordinateur agit sur la posture de telle sorte qu'un groupe musculaire va se durcir et que la main également, elle va finir par se crisper à l'endroit du canal circulaire ici, qui entoure le nerf qui devient comprimé. Donc, le problème ne vient pas de la main, il vient d'ailleurs. Et faisons un petit test pour voir si ce que je vous dis fait sens. Apparemment, il y a des problèmes d'image. De mon côté, l'image est toujours présente. Les personnes qui ont des problèmes d'image, restez patients, ça revient. Ça s'estompe, puis ça revient. Ça doit être à cause du trafic. Il y a peut-être beaucoup de gens sur le serveur à l'heure actuelle. En tout cas, je vous invite à aller découvrir des petites choses intéressantes qui vont donner sens à ce que le CETA y avance par rapport au syndrome du canal carpien et qui affirme que le problème n'est pas dans la main, il est ailleurs. Par exemple, j'ai observé, alors c'est pas exclusif à ces personnes-là, mais on trouve énormément de personnes qui souffrent du canal carpien et qui ont les bras très durs, à tel point que les avant-bras, les muscles des avant-bras manquent complètement de souplesse, ils sont rigides. C'est le genre de personnes à qui, quand vous serrez la main, ils vous donnent l'impression de vous broyer la main, tellement ils ont de force dans la main, ils ne se rendent pas compte, ils n'arrivent pas à mesurer la force qu'ils mettent dans leur main, ils vous la broient d'un coup de comme ça. Et ces personnes-là, quand vous leur demandez de tendre le bras en avant, ok, ça c'est facile à faire, vous pouvez le faire en m'écoutant, c'est tout à fait facile à faire. Vous tendez le bras en avant, là je le mets sur le côté pour que vous puissiez voir, ok, puis vous fermez le poing, ok, en emmenant le pouce à se croiser par-dessus les doigts. Ce mouvement-là est très facile à faire. Si vous le faites latéralement, c'est relativement simple. Si vous emmenez votre bras devant vous, vous pouvez peut-être sentir des débuts de tension dans vos doigts, mais le poing peut rester fermé. Et là où ça devient un problème, c'est lorsque vous allez, je remets la main latéralement pour que vous puissiez voir, mais gardez-la devant vous pendant que vous faites l'exercice, c'est ce mouvement-là où vous fléchissez le poignet de telle sorte que les doigts, enfin le poing tourne vers le bas. Okay? Vous gardez le bras à hauteur de l'épaule et vous fléchissez votre poignet. Et vous allez probablement sentir, si vous manquez de souplesse, que ici, là, les muscles sont durs, voire même les doigts sont durs ou les tendons entre les métatarses se durcissent. En tout cas, ils expriment un certain inconfort. Il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront même pas faire ce mouvement-là sans déplier les doigts, sans ouvrir les doigts. Il y a des personnes, ils peuvent même pas garder le poing fermé. Quand ils basculent le poignet, les doigts sont obligés de s'ouvrir pour pouvoir pleinement, 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 pleinement fléchir la main. Okay? Donc revenez et on va faire un petit jeu, une première découverte. Si vous êtes très souple, vous n'aurez pas de problème, la question ne vous concerne même pas, mais si vous avez les bras durs, les épaules dures, même sans avoir forcément le problème du canal carpien, vous allez vous découvrir que il y a un petit mécanisme très intéressant. Vous poussez le bras en avant, fléchissez le poignet et sentez les endroits où ça tire dans les muscles et observez la capacité de votre poignet à bien se fléchir. Si je me mets de côté, peut-être ce serait mieux. Voilà, ici. Observez votre capacité à bien fléchir le poignet. Okay? Vous poussez le bras en avant et plus vous poussez le bras en avant, plus ça va tirer sur la chaîne musculaire qui lie le poignet à travers le bras jusqu'à l'épaule. D'accord? Les personnes qui n'arrivent pas à plier les doigts, c'est pas grave. Faites en sorte de tirer les doigts vers vous le plus possible. Poussez bien le bras et voyez l'extension, la mobilité, la souplesse jusque dans les doigts. Okay? Lâchez si c'est douloureux pour vous. Si ça sent qu'il glose, refaites le même mouvement, fermez le poignet, fléchissez, et cette fois-ci, tirez votre épaule en arrière, tirez le bras en arrière de façon à sentir que l'omoplate dans votre dos, elle se retourne vers la colonne vertébrale, et fléchissez le poignet. Observez, c'est pratiquement immanquable pour tout le monde, vous arrivez notamment à mieux fléchir le poignet, il y a beaucoup moins de tension dans le bras, et les doigts également sont comme plus confortable. Il se peut que vous sentiez encore quelques douleurs, quelques tiraillements dans la région du poignet, au niveau de la main, mais c'est nettement moins difficile lorsque vous tirez l'omoplate vers la colonne vertébrale de fléchir profondément le poignet que lorsque vous tendez le bras. Ici, il y a une détention plus large, plus forte qui se répartissent dans le bras. Est-ce que vous ressentez quelque chose comme ça? Dites-moi oui ou non, simplement sur votre clavier. Manu dit oui. Ok. Non. Non pour Monique. Oui pour Yolande et Denis. Ok. Denis probablement, oui. Très bien. Vous pouvez le faire des deux mains également, avec les deux bras tendus devant vous. Ok. Où vous avez les doigts, les bras tendus, vous fermez le poing, si vous arrivez à fermer le poing, puis vous fléchissez le poignet. Vous allez observer qu'il y a un poignet qui fléchit plus facilement que l'autre. Les deux bras sont poussés en avant. Les deux bras sont poussés en avant. Ok, et puis l'idée, c'est pas de voir si je suis souple ou pas, mais c'est de sentir les tensions qui se propagent dans le bras. Ok. Et ensuite, tirez les bras en arrière de vous, puis fléchissez les poignets. Vous voyez comme c'est beaucoup plus facile de mobiliser les poignets, de fermer fort le poing, ok, et il y a nettement moins de tension qu'on ressent dans le bras. Tout ça, ça m'amène à dire que le problème de raideur dans les mains, qu'il s'agisse de canal carpien ou de douleur dans les bras, n'ont rien à voir avec les muscles des bras ni les tendons. Ça a à voir avec votre capacité à avoir un thorax bien centré, notamment au niveau du dos, d'avoir des omoplates bien centrées dans le dos. Et quand vos omoplates sont bien centré dans le dos, vous découvrez que ça oblige le thorax à s'ouvrir, à se bomber, et vous vous retrouvez dans une posture où le corps se tient plus naturellement droit. Donc les personnes qui ont ces raideurs là, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Il n'est pas dans les bras, il est au niveau du dos. Les omoplates sont durs, les muscles qui entourent les omoplates et qui permettent aux omoplates de flotter dans le dos, ils sont tendus, ils sont crispés, ils sont rigide, ok. Les côtes également, elles sont dures, et toutes ces raideurs dans le centre du corps, au niveau du thorax, limitent la souplesse et la mobilité des bras. D'accord. Alors il y a des personnes qui disent non, moi je sens rien. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça ne concerne pas tout le monde de cette façon-là. Mais allons voir un autre procédé encore qui va nous permettre de découvrir que la raideur des bras a beaucoup à voir avec nos dos. Je vais vous inviter à vous allonger sur le dos maintenant, et puis je vais faire l'exercice avec vous. Allongez-vous sur le dos de telle sorte que vous pouvez voir ce que je fais. Oups. Bouge ma souris. Voilà. Donc on s'allonge sur le dos. Puis allongé sur le dos, vous avez les bras. Le long du corps, c'est un petit peu sombre, mais je pense que vous me verrez quand même. Okay. Puis vous montez les bras tendus, parallèles, au-dessus de votre visage. Pour l'instant, il n'y a pas de tension, c'est un mouvement relativement simple, mais déjà, il y a des personnes qui ont un thorax très dur, et ces anomalies sont perceptibles, visibles au niveau des bras. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir les bras tendus, ils ont plutôt tendance à avoir les bras qui se fléchissent. Tendez bien les bras, et puis lentement, basculez les bras en arrière jusqu'à ce que vos deux mains touchent le sol en arrière. Et si vous êtes très très souple, non seulement les mains vont toucher le sol, mais également les coudes vont se poser sur le sol. Et les personnes qui souffrent du canal carpien ou qui ont les bras, les muscles, des bras qui manquent de souplesse, vous allez voir que ce sera difficile d'avoir les deux bras poser bien à plat sur le sol, un va soulever du sol, ou alors les deux bras vont soulever du sol, et grande caractéristique qu'on observera, c'est que les coudes sont obligés de se fléchir, on ne peut pas avoir les coudes bien droits, les coudes vont être obligés de se fléchir, notamment du côté où la main fait mal. Est-ce que vous observez quelque chose comme ça? Répondez pas tout de suite, restez allongé par terre, mais observez pour vous-même. Donc, vous montez les bras, vous basculez les bras en arrière, et l'idéal de la souplesse est d'avoir les deux mains posé à plat sur le sol, avec les coudes posés sur le sol. Et les personnes qui n'arrivent pas à toucher par terre en arrière, il y a plusieurs façons pour eux de faire. Ça va être d'écarter les bras, ok, ou alors de fléchir les coudes jusqu'à ce que les mains puissent se poser au sol. Il y a des personnes qui, malgré ces compensations-là, n'arrivent même pas à poser les bras au sol. Alors faisons ce petit exercice. Montez les bras, du mieux que vous pouvez étirez les bras, vers le sol, et même si les coudes fléchissent, c'est pas grave. Tendez les bras du mieux que vous pouvez. Tendez, 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 tendez les bras. Et puis, là où ça bloque, observez dans votre corps où ça coince. Et vous allez découvrir que ça coince dans les omoplates. Ce sont les omoplates qui sont dures, qui empêchent le bras d'aller se poser par terre au sol. Okay? Ou alors les côtes sont rigides. Okay? Lorsque vous basculez les bras en arrière, vous sentez les côtes s'ouvrir, le thorax s'ouvrir. Et dans l'angle qui correspond à votre raideur, étirez les bras loin de vous. Étirez les bras loin de vous. Ouvrez pleinement la main. Étirez pleinement, pleinement, pleinement les doigts. De telle sorte que vous sentez que ça vient tirer ici dans les flancs, dans les côtes. Éventuellement même, ça vous oblige à bouger quelque chose dans votre dos, mais étirez-vous du mieux que vous pouvez. Étirez, 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 jusqu'à ce que petit à petit la main se rapproche du sol, jusqu'à ce que la main touche le sol, puis relâchez-vous. Vous ramenez les bras, puis on va recommencer cet exercice 2 ou 3 fois. Faites-le du mieux que vous comprenez, c'est pas grave si c'est pas parfait. Emmenez les bras en arrière, lentement basculez les bras en arrière. Quand les bras basculent, vous sentez que le mouvement du bras a un effet d'ouverture au niveau du thorax, les côtes se redressent, les omoplates vont comme glisser dans le dos, ou si elles sont trop raides, elles vont empêcher le bras de basculer en arrière. Arrêtez-vous dans l'angle où vous sentez le plus de raideur, le plus d'inconfort, et dans cet angle-là, tout simplement étirez les bras. Étirez, étirez jusqu'à ce que l'étirement des bras se propage dans le thorax, dans les pectoraux, dans les omoplates, dans la colonne vertébrale, et aussi dans les flancs, dans les côtes. Étirez, 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 étirez-vous, et puis doucement, relâchez l'étirement. Et ramenez de nouveau les bras le long du corps, on va le refaire encore une fois. Montez les mains au-dessus du visage, bras tendus. Peut-être certains parmi vous vont déjà découvrir une amélioration. Les coudes qui fléchissaient peuvent s'étirer un petit peu plus, okay, ou la main peut s'ouvrir avec un petit peu plus de confort. Basculez lentement les bras en arrière et sentez que ce mouvement-là ouvre le thorax. C'est très important de comprendre et surtout de ressentir ça. Comprendre, c'est intéressant, mais ressentir, c'est mieux. Basculez les bras en arrière, étirez, étirez, étirez les bras du mieux que vous pouvez en fonction de vos propres raideurs, en fonction de vos limites. Trouvez vos limites, étirez-vous, 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 étirez les bras. Et doucement, relâchez l'étirement. Et en fonction de vos possibilités, laissez les bras venir poser au sol. Ça va ? Alors revenez. Je vous donne le temps de revenir, mais avant que vous retrouviez vos esprits, venez vous asseoir sur votre chaise, ou venez vous asseoir en seiza si vous le pouvez. Et de nouveau, placez les bras devant vous, fermez les poings et basculez les poignets. Okay? Et que vous ayez les bras étirés ou les bras tirés en arrière, que vous poussiez les bras en avant ou que vos bras viennent en arrière, vous pouvez sentir que c'est nettement plus confortable par rapport à tout à l'heure, ce mouvement-là, après avoir fait l'étirement allongé sur le dos. Donc, ici, de côté, je vous montre, fermez les poings bien fort, fermement, et basculez les poignets en avant. Okay. Et que vous ayez les bras poussés en avant ou que vous ayez les bras tirés en arrière, c'est-à-dire sans correction, vous devez sentir que c'est comme un petit peu plus souple, un petit peu moins contraignant dans les muscles des bras, le fait d'avoir les poignets basculés comme ça en avant. Avant de faire l'exercice d'étirement des bras, vous deviez pouvoir sentir certaines raideurs, même si ce n'est pas canal carpien. Mais après avoir étiré les bras, vous pouvez sentir que c'est un peu plus confortable. Les personnes qui ont le problème du canal carpien, ça devrait être un peu plus confortable et moins contraignant de fermer le poing et de fléchir le poignet. Donc tout ça, ça m'amène à dire que la solution que le Setai apporte est une solution qui consiste à corriger la structure à la source du problème. Le problème dans le bras ne vient pas du bras. Il vient de la mobilité des omoplates, de la souplesse des côtes, de la flexibilité au niveau de la ceinture scapulaire. Et lorsque tout ce groupe de votre corps se rigidifie, se solidifie, alors les bras manquent de mobilité. Plus les côtes sont dures, plus c'est difficile de monter le bras bien haut derrière l'oreille, tendu et proche de l'oreille, d'accord? Quand les côtes sont dures, quand le thorax est rigide, vous montez le bras et puis à un moment, le bras va s'écarter vers l'extérieur. On a l'impression d'avoir de la souplesse, mais en vérité, le bras est écarté. Si vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça, faites-le devant un miroir, par exemple. Vous allez le voir immanquablement. Ou autre compensation, en montant les bras, le corps est rigide et on a l'impression de monter le bras droit, mais le coude, lui, il fléchit sur le côté. Ça, c'est quelque chose de fort qui indique au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau de la ceinture scapulaire, des dorsaux, de la colonne vertébrale même et des côtes, il y a une très grande raideur et cette raideur prive le bras de sa mobilité. Dans cette situation, le corps humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compenser, il va forcer. Okay? Et si vous avez une activité physique intense, le corps est obligé de forcer d'autant plus qu'il est rigide à cause du renforcement ou de la stimulation qu'on apporte à un certain groupe musculaire qui reste toujours stimulé. Et du coup, de loin en loin, le corps se durcit jusqu'à ce que les poignets perdent leur mobilité et en se resserrant, ici l'éminence sténar se durcit, la main fait mal. Donc la solution que le setai apporte consiste à utiliser les bras, à mobiliser les bras, pardon, de telle sorte que ça libère les tensions dans le thorax. Quand le thorax se détend, les muscles des bras peuvent se relâcher et naturellement la main retrouve la possibilité et l'agilité de s'ouvrir pleinement, de retrouver le contrôle de la force dans les doigts et dans les poignets, décidément. Et tout le corps en trouve un avantage, un bénéfice de détente. Et c'est les prémices de la solution que j'ai proposé dans le dossier sur le canal carpien. Pour comprendre le problème dans son entier, voyez la vidéo et surtout pratiquez la solution qui vient avec. Et la solution qui vient avec passe, comme vous l'avez vu là maintenant, à utiliser les bras de telle sorte que votre force qui est sclérosée dans les poignets, dans les bras, vienne de nouveau permettre aux organes internes, aux vertèbres, aux côtes, aux muscles, de se revigorer et donc de lâcher les tensions inutiles. Vous allez découvrir que ça permet une très grande capacité à pouvoir respirer confortablement avec des poumons, un thorax vraiment détendu. Ça permet de se retrouver droit, de retrouver de l'agilité dans le mouvement des bras. C'est très 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 agréable. Et c'est très intéressant pour d'autres problèmes qui ne sont pas forcément liés au canal carpien, qui peuvent être de l'ordre du liquide lymphatique par exemple. Le problème de liquide lymphatique, le problème de resserrement au niveau de la ceinture scapulaire qui empêche de déployer la gorge, de respirer profondément. Vous allez même découvrir que ça permet au corps de se revigorer au niveau du bassin. C'est vraiment un exercice extraordinaire qui est très intéressant à découvrir pour plein d'autres choses, mais il est bien indiqué pour les personnes qui souffrent du canal carpien. Voilà. Il se peut, et là c'est au cas par cas, qu'il faut voir la chose, la proposition elle est d'ordre général et elle convient à beaucoup de personnes. Il se peut qu'en faisant l'exercice, certaines personnes découvrent que l'exercice qu'on a fait là simplement, ou celui d'étirer les mains comme ça, certaines personnes découvrent que la base de la paume de la main n'arrive pas à se détendre, ou qu'ils ont l'impression que le muscle ici, il perd son tonus et il fond. J'ai appris quelque chose, et ça c'est vraiment de l'ordre de la connaissance du setai. Tous les muscles ronds, tels que les pectoraux, l'éminence sténar, les muscles sous les pieds, l'intérieur des cuisses également, sont des reflets immédiats de l'état de la vitalité, l'état de la santé de la personne. Vous avez peut-être observé des personnes âgées qui sont vigoureuses, pleines d'énergie, et puis pratiquement du jour au lendemain, vous les voyez, ils ont comme la mine déconfite, Ils ont l'impression d'avoir maigri, profondément maigri. Si vous observez les pectoraux ici, c'est comme si d'un seul coup, la force dans les pectoraux, elle est tombée et ça devient comme un drap posé et non plus un muscle. Ou alors l'éminence ténare, cette masse musculaire ici qui est supposée être rebondie et élastique, lorsque vous touchez à ça, eh bien, il n'y a plus de tonus à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'école du CETA? Et cet état de l'éminence ténare des pectoraux indique que les poumons sont épuisés et que la vitalité est profondément en danger. Quand vous observez les personnes âgées, il y a des personnes autour de moi qui travaillent en gériatrie et qui vont très bien comprendre ça. Vous travaillez avec des personnes âgées qui ont quand même une certaine énergie, et puis du jour au lendemain, vous palpez la main, mais il n'y a plus de force dans la main, il n'y a plus de force dans l'éminence ténare, et vous découvrez que peu de temps après, la personne, elle est sur le côté vraiment déclinant de la pente et elle part peu de temps après. Ça indique, ces phénomènes ici que vous voyez indiquent exactement dans quel état la vitalité se trouve. Lorsque l'éminence ténare est encore rebondie, que le poignet est souple, la vitalité sait encore faire son travail pour maintenir la santé à l'intérieur du corps. Lorsque ça se dévitalise ou lorsque ça devient trop dur, alors la vitalité n'a plus l'efficacité pour maintenir la souplesse. Et très rapidement, le corps va dépérir. Donc, c'est une information qui peut intéresser un certain nombre de personnes à savoir. Donc, c'est très important, grâce à cet exercice d'assouplissement du dos en servant des bras, d'entretenir une souplesse de la vitalité pour que le corps, lui, puisse conserver l'énergie dont il a besoin pour bien fonctionner et entretenir votre santé. Lorsque on souffre du syndrome du canal carpien, ça ne veut pas dire qu'on va mourir demain, même si ça nous arrive tous un jour. Lorsque vous avez un problème du canal carpien, ce que vous observez, c'est une incapacité importante à vous détendre. Et le réflexe qu'on a de faire par rapport à ça, c'est de se braquer, de se durcir, c'est-à-dire de lutter contre le problème. Ma suggestion, ce serait plutôt de faire le contraire, reconnaître que le problème est là et chercher la détente plutôt que renforcer. Chercher la détente plutôt que renforcer les muscles. Et comment on fait pour détendre les muscles du poignet? Tout simplement en servant des bras. Vous pouvez vous étirer, là on l'a fait allongé parce que c'est instructif, mais vous pouvez le faire assis ou même debout, de dresser les bras et puis de vous étirer. Bien sûr, c'est pas suffisant pour régler le problème, mais en tout cas ça va vous faire découvrir que c'est très intéressant d'aborder votre corps d'un point de vue nouveau, d'un point de vue différent, qui vous permet de réfléchir et de découvrir l'utilité de reprendre ce corps en main pour l'aider à s'ajuster. Parce que si vous aidez votre corps à s'ajuster, naturellement, de lui-même, il va faire un effort supplémentaire et beaucoup plus important pour faire renaître la souplesse, le centrage, la détente dont on a besoin pour que la santé puisse opérer. Lutter contre un problème ne renforce pas la santé. Au contraire, lutter contre un problème renforce en surface votre énergie vitale, mais prive les fondations du corps de l'énergie dont il a besoin pour pouvoir s'ajuster. Donc ce qui est plus intéressant, c'est de relâcher, d'étendre, et de chercher dans la mobilité globale du corps les axes qui vont permettre de repousser la vitalité vers le centre, parce que c'est dans le centre que votre corps a besoin de force, et non pas à la périphérie. Donnez-moi un petit peu vos impressions sur cette réflexion, sur ces petits exercices si vous les avez faits. Claude me demande comment renforcer les poumons. On ne renforce pas les poumons, on les entretient. En dormant tôt, un bon sommeil est important, ça permet aux poumons de bien se rafraîchir. En transpirant pendant la saison chaude, transpirer ouvre les pores de la peau et permet à la peau de respirer et donc de soutenir le travail des poumons. D'ailleurs, on dit en CETA, et encore une autre information, que c'est très important pour une jeune maman de transpirer ses signes de bonne santé, et également le fait de transpirer pour une jeune maman permet à l'enfant d'avoir des poumons forts. À l'heure actuelle, on est dans une civilisation qui considère la transpiration comme étant sale et qui développe énormément de moyens pour empêcher la transpiration. Or, beaucoup de mamans maintenant ont perdu la capacité à transpirer à cause de l'air conditionné, à cause d'un certain confort excessif dans nos vies quotidiennes. Et ces mamans mettent au monde des enfants qui ont des poumons fragiles, moins résistants. Donc transpirer, dormir. Quand vous savez faire des tai so, jogger tai so, libère beaucoup bien, beaucoup mieux les poumons que lutter contre la maladie, c'est une certitude. Et les moyens les plus naturels que vous ayez, oui, c'est de dormir et de transpirer. La transpiration est un phénomène naturel pour le corps et on en a besoin pour être en bonne santé. Et Manuela me dit, j'ai une vraie gêne au niveau. Avant. Oui, au niveau de l'épaule droite qui se prolonge jusqu'au coude. Tu as la gêne depuis que tu as fait l'exercice ou tu as la gêne de façon constante? Et Monique dit, cela fait du bien, mais c'est un petit nerf qui coince sur le côté extérieur du poignet. Je peux répondre à deux questions en même temps. Vous voyez, on ne se rend pas compte, et peu de gens ont le regard que le Seitan nous invite. C'est pour ça que je fais cette émission, pour vous inviter à élargir le regard sur la vie, le corps et la santé. La santé, le confort ici au niveau des poignets est directement en relation avec le centrage du corps au niveau du thorax, spécifiquement au niveau des omoplates et des épaules. Plus les omoplates s'écartent, plus ça vous oblige à avoir un dos rond. Et dans cette attitude de dos rond, les vertèbres, elles sont comme stimulées à se tasser les unes sur les autres et la vitalité, elle est davantage expulsée vers l'extérieur. Donc inévitablement, les messages nerveux, le circuit nerveux qui part de la vertèbre vers le bras, par exemple, est innervé de façon complètement déséquilibrée et ça peut créer des gènes. Mais l'autre phénomène, lorsque les omoplates s'épuise, pour quelle raison? Là, il faut chercher. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est la santé des poumons? Est-ce que c'est la santé du cœur? Il y a une raison à cela. Mais en tout cas, lorsque le thorax se creuse, se vide, les épaules, elles s'écartent. Okay, le sternum, lui, a tendance à tomber davantage et à presser sur les poumons et sur le cœur. Et puis, ça donne une impression au thorax de devenir tout fin en haut et tout gonflé vers le bas. Les épaules s'écartent et naturellement, quand les épaules s'écartent, toute la structure est influencée. Le positionnement du système articulaire de l'épaule, lui, va changer. C'est le humérus, oui. Lui, il va se comprimer. Les tensions musculaires qui longent l'humérus vont comme évoluer. Le biceps va se durcir. Okay, si vous palpez vos biceps et que vous êtes en bonne santé, vous devez sentir que le biceps, lui, il est élastique tout du long. Or, les personnes qui ont des poumons fatigués, vous allez découvrir qu'à un endroit sur le chemin du biceps, le muscle, il est comme un petit peu dur. Il peut faire comme une petite boule plus ou moins prononcée. Quand vous pressez cette boule et que vous remontez vers l'épaule, vous pouvez peut-être sentir une sensation désagréable dans le cou ou dans les poumons. Si vous comprenez ce que je vous explique là, okay, vous pouvez comprendre que lorsqu'il y a une anomalie qui se déclare dans la région du thorax, ça va chambouler également l'organisation de la structure du corps jusque dans les poignets. C'est ce que vous percevez. Donc quand Monique dit qu'elle ressent comme un petit pincement de nerf, alors inévitablement, ce que tu dois comprendre, et puis c'est ton cas, ce qui se passe au niveau de ton poignet vient de la santé et du centrage du dos et des épaules. Or, lorsqu'on vieillit, le corps a tendance à se tasser. Et quand il se tasse, quand vous pressez une éponge comme ça, l'eau, elle va sur les côtés et le volume de l'éponge s'expulse vers l'extérieur. Donc, quand nous vieillissons et qu'on est sous le joug de la pesanteur, le corps se tasse. Comme on a moins d'énergie vitale pour se dresser, la vitalité, elle va vers l'extérieur et ça va chambouler toute la structure musculaire, squelettique, au niveau des nerfs, au niveau des organes, vers l'extérieur. Et plus le corps perd sa vitalité dans le centre, plus il va devoir souffrir vers l'extérieur. Claude dit, je rétrécis, c'est ça. Chantal dit, après l'étirement, elle ressent plus doux à étirer les bras. Des endroits précis de l'omoplate et de la colonne vertébrale se réveillent à la circulation. La respiration est plus ample et plus détendue. Donc ça, c'est bien. C'est une observation quand les choses se font bien. Là, on n'a fait que des exercices tests. On n'a pas fait des exercices réparateurs. On a simplement cherché à comprendre le lien entre la mobilité des bras, la structure du dos et ce qu'on peut ressentir dans nos poignets. Si après avoir fait ces exercices tests, vous ressentez des anomalies, c'est une évidence. Il y a des anomalies dans votre dos, dans vos épaules, dans le thorax, ou je ne sais pas, je ne peux pas vous toucher pour dire, mais en tout cas, il y a des anomalies. Et l'idée du TASO pour le canal carpien, et puis il y en a d'autres, okay, c'est de restructurer le corps, d'aider le corps à se réajuster pour que la vitalité revienne vers le centre. Et quand je parle de vitalité, ce n'est pas uniquement le ki, l'énergie, c'est également le flux sanguin, c'est également les fluides à l'intérieur du corps, c'est également les tensions musculaires et le squelette qui vont se réorganiser autour du centre pour revenir à un point d'équilibre optimisé. Et au fur et à mesure que le corps se réajuste, qu'il se rééduque à venir fonctionner confortablement dans le centre, vous allez découvrir que petit à petit, les lésions que vous sentez dans les bras disparaissent, elles s'estompent, elles se réduisent et puis elles disparaissent. Et la guérison vient au moment où vous avez oublié que vous aviez un problème. Je ne sais même pas de quel côté du poignet tu parles, Monique. Si c'est vers l'intérieur du poignet, ici, oui, le problème peut être corrigé avec le taiso du canal carpien. Par contre, le taiso, je dois vous dire la vérité, il est éprouvant. Ça ne se fait pas simplement assis sur son siège. Il faudra véritablement mettre votre vitalité en mouvement. L'exercice est très structuré et il va vous botter un petit peu le derrière. Il va vous exprimer très clairement les limites de votre corps et les anomalies que vous avez accumulées dans les années. Je pense que c'est une très bonne chose de se faire mettre une petite fessée par un taiso une fois de temps en temps, parce que ça nous réveille à nos limites, ça nous fait prendre conscience de ce qui se passe en nous qu'on ne voit pas, parce que l'écrasement du corps et le vieillissement, c'est quelque chose d'extrêmement silencieux qui se fait sur des dizaines et des dizaines d'années, donc on ne ressent pas forcément très clairement le processus, mais ça se fait. Et on découvre qu'on a vieilli, que notre corps s'est tassé, qu'il s'est tordu, qu'il est devenu croche, souvent longtemps après que le processus ait commencé. Monique dit tout à fait d'accord et un jour on est foutu. Tant que le cœur bat, il y a quelque chose qui peut être fait. Ça ne veut pas dire que tu vas retrouver ton corps de 20 ans si tu es abîmé à arriver à un certain âge, mais l'idée c'est de mobiliser la vitalité de telle sorte que tu peux optimiser ton confort personnel et retrouver l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer de bien vivre au mieux par rapport à la situation dans laquelle tu es. C'est ce genre de réalisme là auquel je veux vous inviter. Alors je vais vous laisser avec ces petites réflexions, je vais vous laisser découvrir les exercices qu'on a vus aujourd'hui, les explorer, et quand vous serez motivé et décidé à en faire, en découvrir davantage, je vous invite à découvrir le TASO sur le canal carpien, qui à mon avis est une richesse, ne serait-ce que pour vous informer sur votre corps, pour vous apprendre à le réajuster et à le mettre en mouvement correctement. Il n'y a pas besoin d'avoir le syndrome du canal carpien pour découvrir la richesse du taiso et des informations que je partage avec vous. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en France. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission qui sera probablement ou certainement en tout cas la semaine prochaine. Et je vous rappelle, si vous voulez un rendez-vous par Skype avec moi, déjà vous devez absolument installer Skype avec une webcam et un micro sur votre ordinateur, surtout si vous êtes sur PC, Max ça vient tout seul. Dites-moi si vous êtes ouvert à la possibilité de faire le Saïta Escape deux fois par mois et non pas chaque semaine. Je vous laisse la parole, le choix, et je remercie Claude, Chantal, Monique encore, Manuela, Denis, Yolande d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui, et je salue tous ceux qui vont la voir en différé. Passez une très très bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à bientôt.